Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Devenir l'un de nos plus grands champions cyclistes n'a pas toujours été du gâteau pour l'amoureux des pâtisseries que vous êtes. À toutes vos victoires s'ajoute aujourd'hui un livre démontrant que vous gagnez aussi à être connu. Bonjour Bernard Hinault.
Bonjour.
Alors, ce livre, c'est Inno, avec vous et Jean-Paul Brouchon, hélas disparu, de Mythe Illustré chez Marie Édition. C'est un parcours, et ce parcours, on va l'effectuer un peu différemment du livre, c'est-à-dire qu'on va l'effectuer à partir de dates clés de votre carrière unique. Alors, ces dates, elles correspondent à chaque fois à un événement, et la première que j'ai trouvée, c'est le 2 mai 1971. Ça vous dit quelque chose?
Oui, c'est la première course que j'ai faite. Pardon.
Oui.
C'est la première course que j'ai fait et que j'ai gagnée, promettant à ma mère, dès le départ, le matin, de lui ramener un bouquet.
Voilà. Alors, c'est extraordinaire parce que vous arrivez dans cette course, personne ne vous connaît. Vous avez les cheveux longs, un maillot trop grand.
Mais la totale, le branquignol qui arrive dans une course parce qu'il n'est pas équipé, il n'a rien, il a du poil sur les jambes et ça ne l'empêche pas de rouler.
Voilà. Et donc, pendant la course, vous allez surprendre tout le monde, y compris celui qui était le favori.
Oui, où on arrivait chez lui d'ailleurs, on était dans son village à Plan-Benoît, il s'appelle Olivier, Jean-Yves, et puis je suis parti à un moment donné sur la gauche parce qu'il y avait un passage, j'avais fait toute la course derrière, je ne savais pas comment ça se passait, c'était vraiment ma première course, et ce petit passage m'a permis de passer, je suis parti, et le seul qui m'a suivi, c'est Jean-Yves Olivier sur cette course. Et on est parti à deux tours ou trois tours de la fin. Et à un moment de temps, je l'ai attendu parce que je trouvais drôle de partir tout seul, quoi. Et puis dans le sprint final, je l'ai battu chez lui, devant sa maison.
Donc il ne devait pas être content.
Pour lui.
Vous étiez surpris quand même de gagner, Bernard Hinault ?
Un peu surpris, oui, parce que quand on n'a jamais fait de compétition, mais ces paroles que je dis à ma mère avant de partir, peut-être c'était quelque chose qui allait se faire, quoi.
Alors, vous êtes né à Iffignac, c'est pas loin, dans un lieu qui s'appelle La Frêche. C'est vraiment au cœur de la Bretagne.
Non, c'est pas le cœur, vraiment. C'est le bord de mer. C'est autour de Saint-Brieuc. Moi, j'habitais donc à 5 km de la mer. Donc, je passais un peu de temps en mer avec mon père et puis un peu sur le vélo.
Alors, il y a un autre cycliste qui est né à Iffignac, qui s'appelle Zéphirin Jégard. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a fait des grands voyages dans le monde. Il a fait le voyage entre le Pakistan et la Russie et à bicyclette de Brest à Vladivostok.
Il est célèbre. Non, je ne connais pas du tout.
Eh bien, il vient d'Iffignac, vous voyez.
Ah oui.
Alors,
il y a longtemps qu'il a fait ça ou plus de 30 ans que je suis parti d'Iffignac.
Voilà, mais il y a une dizaine d'années, vous voyez, c'est votre successeur.
Ah oui, donc c'est pour ça que je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer.
Alors, Iffignac aussi, ce sont les chocards, c'est un gâteau aux pommes. Et je crois que vous l'affectionnez car l'une de vos passions en dehors du cyclisme, ce sont les pâtisseries.
Et c'est toujours la pâtisserie, j'adore la pâtisserie. J'ai pu faire des journées où je n'ai consommé que de la pâtisserie plutôt qu'un plat de résistance, mais c'était une époque où on faisait beaucoup de routes en voiture. Et je pense que je connaissais une bonne partie des pâtisseries qui existent en France pour pouvoir me ravitailler.
Oui, c'est un bon ravitaillement. Mais en même temps, ça fait prendre quelques kilos.
Non, parce que, étant donné qu'on fait de la compétition, c'est des sucres. C'est des sucres et sucres lents. Et on les consomme dans la journée qui suit. C'est rapide, ne vous inquiétez pas.
Et Eddie Barclay, roi du micro-sillon, faisait des déjeuners comme ça où il n'y avait que des desserts pour tout le monde. Et ça fonctionnait très bien.
Ah, c'est sûr que si vous ne faites que ça tous les jours, je pense qu'à un moment donné, vous allez prendre un peu dans mon poing.
Alors, votre jeunesse, vous êtes donc un enfant un peu agité. Et je crois que votre spécialité, et c'est pas une grande spécialité, c'est le lancer de poulet, Bernard Hinault.
Bon, c'est des bêtises qu'on fait quand on est jeune. On va dans les fermes chez les parents, les cousins, les oncles et tout. Quand on peut en attraper un, on s'amuse à le jeter.
Voilà, mais c'est le côté enfant agité, car vous étiez un enfant assez agité.
Oui, je n'étais pas le dernier, j'étais un peu turbulent, j'étais un peu kamikaze. C'est ce qui fait peut-être ce qui a fait ma force dans la compétition, parce que j'avais envie de me battre et puis de gagner.
Voilà. Alors, votre vie à l'époque, c'est la ferme. Je crois qu'autour de chez vous, il y a une dizaine de fermes et que vraiment, c'est tout le monde travaille à la ferme et dur.
Ben, mon père était à la SNCF, donc moi, toutes mes vacances, je les ai passées chez mes oncles, mes grands-parents, les voisins à la ferme, mais parfois pour travailler, parce que ça nous permettait d'avoir de quoi vivre un peu plus. Ouais.
Et puis, un jour, votre père, qui n'a pas eu de voiture, achète la télévision et vous découvrez une émission dont voici le générique. La piste aux étoiles, je crois que c'est un de vos premiers souvenirs de la télévision en noir et blanc, Bernard Hinault.
Ah oui, c'est dans les années 60, ouh là là, 60 même,
Ouais.
peut-être même avant. Et
C'était.
c'était la grande fête parce que mon père a été le premier à avoir, comme il n'avait pas de voiture, ça a été le premier à avoir une télévision et tous les voisins venaient le dimanche soir voir ce qui se passait à la télévision. Et c'était presque une fête, quoi. Il y avait 30 personnes à la maison.
Et la piste aux étoiles, on a oublié aujourd'hui, il y a 23 numéros de cirque dans une même émission, ce qu'on peut même plus imaginer aujourd'hui. Et il y avait aussi le résumé de l'étape du tour, et ça, vous ne le manquiez pas.
Oui, ben parce que les images n'étaient pas diffusées de la même manière que ce que l'on fait aujourd'hui. Il n'y avait pas toute une étape entière, mais le résumé filmé était tous les soirs et ça permettait de voir les champions que j'ai pu rencontrer quelques années plus tard.
Et en plus, les premiers Tours de France n'étaient pas, le résumé n'était pas diffusé le soir même, mais le lendemain, parce qu'il fallait tourner le film, l'emmener par avion, le développer à Recognac-Jay, et il y avait le résumé de l'étape le lendemain de la course. Ça a
Ben,
beaucoup
on était un
changé
peu en
depuis.
retard, mais bon, c'était la technologie était déjà pas mal pour l'époque. Par rapport, c'est vrai que par rapport à aujourd'hui, il y a rien de comparatif à comparer, quoi.
Alors, le vélo, ça a commencé, je crois, pour aller à l'école, tout bêtement.
Oui, j'avais le choix, ou j'allais à pied ou j'allais en vélo. Et comme on avait un vélo pour deux avec mon frère, c'était mieux que moi je le prenne pour y aller, quoi. Et puis déjà là, c'était la compétition avec tous mes voisins, mes cousins, parce que dans le village où j'habitais, on était 42 jeunes. Donc, il y avait une petite compétition, même avec les jeunes femmes qui étaient là. Tout le monde se battait le dimanche après-midi pour faire qui aurait gagné, quoi.
Voilà. Et vous suiviez aussi les camions et les voitures.
Alors ça, c'était quand j'étais au Sacré-Cœur, donc au lycée technique. Et c'était plus facile de monter la côte des Finiac, puisque c'est une côte, derrière le camion plutôt que de se forcer face au vent. Donc mon principe c'était de bloquer un peu le camion pour qu'il ralentisse au pied de la bosse pour pouvoir prendre sa roue derrière, quoi.
Mais c'est comme ça que finalement vous avez appris à avoir des muscles et à faire du vélo.
Je pense que ça a servi, mais j'ai fait aussi de la compétition à pied pendant 4 ans avec quelqu'un d'extraordinaire qui est Daniel Carfanton, et tout ça, ça a joué. Ça a joué dans le résultat de ce que j'ai fait à la sortie.
Et le vélo, vous l'avez appris en tombant beaucoup quand vous étiez tout petit, je crois, Bernard Hinault.
Bon, je pense oui, comme tout le monde, on en a pris des bûches. Parce que quand on est turbulent, on ne regarde pas toujours et les chutes, ben, font partie de l'apprentissage.
Voilà. Et l'apprentissage aussi, vous l'avez fait grâce au vélo de votre frère que vous lui avez acheté, mais en le payant à crédit.
Ben oui, je me rappelle encore du prix, 581 francs. Donc, ça vous marque quand vous êtes jeune et puis que vos parents n'ont pas les moyens de vous payer un vélo et lui, avait pu, parce qu'il était en apprentissage, avait pu acheter un vélo, mais la compétition ne l'intéressait pas plus que ça. Donc c'est moi qui ai pris le vélo et je lui ai réglé tout au long de l'année avec les gains que j'ai pu faire en course.
Oui, car vous avez gagné un maximum de critériums bretons dès le départ.
Ben, j'ai fait 20 courses en première année en cadet, puisque c'était une période cadet, où j'ai gagné quand même 12 courses sur 20. C'est pas mal, c'est une bonne note.
Voilà. Et ensuite, il y a eu, je crois, à Arras, je crois que c'était le 11 mai 72, pour être exact, le championnat de France des débutants que vous avez
C'est
gagné
l'année
aussi.
d'après. Et d'après, donc j'ai commencé la saison, j'ai commencé par gagner des courses pas mal. J'ai préparé le championnat de Bretagne que j'ai gagné, le championnat de France avec Monsieur Leroux. On avait dit il faut bien le préparer. Et il y avait que deux côtes. La première, tu te prépares, tu te rapproches de la tête. La deuxième, t'attaques et puis c'est fini, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Donc il y avait 60 ou 64 km pour finir. Et j'ai fini tout seul par rapport à tous ceux qui étaient les grands prétendants. À la compétition, qui était Bernard Vallée, Osmond, des gens qui avaient 110 victoires. Moi, je suis arrivé avec à peine une trentaine, quoi.
Voilà. Et votre
Et
premier
ça ne m'a pas
article.
empêché de gagner.
Non, et le premier article, c'est étonnant, c'est le destin. C'est dans La Voix du Nord et c'est signé d'un certain
Ah, c'est
Jean-Marie
bloqué.
Leblanc qui va devenir le patron du Tour de France.
Pardon?
Le premier article qui paraît le lendemain dans La Voix du Nord, il est signé par un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Leblanc et qui va
Oui.
devenir le patron du Tour de France.
est devenu le patron du Tour de France après. Et je me rappelle encore de lui. C'est lui qui m'avait véhiculé pour aller aux réceptions, parce qu'il y avait une réception après la course. Et c'est lui qui m'a véhiculé pour aller à la réception de la mairie et tout, dans sa 504 noire.
Voilà.
Ça marque un peu quand même.
Oui, et vous ne pensiez pas qu'il allait devenir le patron du Tour de France à l'époque?
Non, c'était un journaliste de c'était la Voix du Nord à l'époque. Il n'était pas encore à l'équipe, il n'était pas au Tour de France. C'est après qu'il est remonté vers Paris.
Et voilà, et vous ne pensiez pas, vous, devenir un grand champion à l'époque?
Non, quand on est à cet âge-là, on a envie de s'amuser, même après, quand on est dans la haute compétition, on a envie de s'amuser. Mais qui aurait pu dire en 72 que je serais devenu ce que j'ai été après?
Voilà.
C'est impossible à savoir. Même quand on passe professionnel, on n'a pas de moyen de se comparer par rapport aux grands. C'est après dans la compétition qu'on voit qu'on a des moyens et qu'on prend tout doucement sa place et un jour, on devient le numéro un.
Voilà, et cette date, elle est importante, c'est le 21 juillet 1978. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Bernard Rideau.
Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Bernard Hinault. Il y a ce livre, Le mythe illustré, que vous avez signé avec Jean-Paul Brouchon chez Mareuil Éditions. Et une date, le 24 juillet 1978, elle est liée à cette chanson.
Il a le maillot, il a le maillot, le maillot bouton d'or, le maillot jaune, il a le maillot.
Chanson de Marcel Amand en 1960, et c'est votre premier maillot jaune finalement,
oui.
Bernard Hinault.
Oui, c'était un pari qu'on avait fait avec Cyril Guimard de programmer depuis 76, donc c'est cette victoire sur le tour, en travaillant tout doucement, sûrement, en mettant les pions les uns après les autres, pour finalement arriver au départ du tour et dire on va le gagner.
Voilà.
Et c'est ce qu'on a fait derrière.
Vous gagnez ce maillot jaune à Nancy, je crois, et après une ascension du Tourmalet, le col du Plat d'Adet, qui a été mémorable.
Je ne me rappelle plus trop.
Ah si, le Tourmalet, vous êtes arrivé au sommet, et après il y a eu ce col du Plat d'Adet, qui est un col totalement méconnu en France, mais qui est très connu aux États-Unis. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, il y a un coureur qui s'appelle Incapi, qui est un sprinter, qui a gagné cette étape qui était ingagnable pour lui, à tel point qu'aujourd'hui, il a un centre d'entraînement en Caroline du Sud qu'il a appelé le Plat d'Adet.
Ah ben c'est un bon souvenir pour lui, mais pour moi aussi, parce que si j'ai passé en tête, c'est que ça allait pas mal.
Alors, ce maillot jaune, il est lié aussi à une histoire totalement surréaliste. Au départ, pendant 2 heures, il a été, avant que vous le preniez, sur les épaules d'un coureur qui s'appelait Michel Pollentier.
Oui, c'était à l'Alpe d'Huez, où il a été déclassé parce qu'il avait triché. Donc, c'était tout à fait logique qu'il soit renvoyé à la maison. Et on m'a redonné le maillot que j'ai perdu par rapport à Iop. Et je l'ai récupéré dans l'étape qui était de Metz à Nancy, sur 72 km. Et c'était un contre-la-montre individuel. Et là, je ne lui ai pas fait de cadeau.
C'est Jobs Automel, bien sûr. Alors, il faut savoir aussi que vous êtes à table quand vous apprenez cette histoire et que vous êtes quand même très surpris parce que le dopage, on n'en parle pas beaucoup à l'époque. Et là, le dopage était évident en plus.
Ben oui, parce qu'il a été vraiment pris à tricher. C'est sûr que quand les coureurs vont au contrôle antidopage, on n'a pas dans l'idée qu'ils vont sortir de la caravane en étant punis. Et là, ça a été le cas. Donc, il a été déclassé, il a été renvoyé. Et je pense que ça fait du bien aussi à notre sport de temps en temps de faire le ménage.
Oui, mais en même temps, le dopage, on n'en parlait pas autant à votre époque qu'on en parle aujourd'hui, Bernard Hinault.
Alors, il y a eu une période, il y a une dizaine d'années, où on a parlé beaucoup du dopage. Maintenant, on en parle beaucoup moins parce que les règles sont beaucoup plus strictes, les punitions sont beaucoup plus dures. Et je pense que ça va dans le bon sens.
Oui, et en même temps, il s'est passé tellement de choses. Bien avant qu'on en parle, ça existait déjà.
Mais ça existait à la sortie de la guerre. Il ne faut pas l'oublier. L'autre jour, je regardais une émission à la télévision où certains produits ont été inventés pour garder de la vigilance sur les gens qui étaient à faire la guerre. Et je pense que les sportifs en ont profité, mais il n'y a pas que les coureurs cyclistes, je crois qu'il y en a beaucoup qui en ont profité.
Alors, il y a aussi quelqu'un qui a beaucoup compté sur vous, pour vous, que vous avez repéré sur une course, une des vos premières courses, puis la Route de France. Dans la voiture, il y a un monsieur que vous ne reconnaissez pas tout de suite et qui vous sourit, c'est Louison Bobet.
Oui, qui me demande à la Route de France, parce que j'avais attaqué de très loin, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, je vais gagner. Et j'ai gagné qu'avec une seconde, donc il manquait pas grand-chose. Et si, j'ai réussi à le faire quand même, finalement. Et ça a été un peu le début de notre connaissance. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois après. Bon, même quand j'ai gagné Paris-Roubaix, il était présent parce que c'était le dernier vainqueur de Paris-Roubaix. Donc je lui ai montré que un Breton, c'était un autre Breton qui était bon, quoi.
Vous aviez toujours la certitude de gagner.
Ben, on part pas quand on connaît ses capacités, quand on sait comment tout ce qu'on en a fait pour s'entraîner, pour être présent à la course, on peut pas partir en se disant je viens pour faire un top 5. Je viens pour gagner. Autrement, c'est pas la peine de partir au départ. Si vous dites je vais faire un top 5, vous vous battez pas pour être le premier, vous vous battez pour être dans les 5 premiers.
Louison Bobet, il a remporté 3 fois le Tour de France, mais on lui doit aussi la thalassothérapie. Et on ne sait pas assez qu'un jour, il s'est fait soigner pour un problème de santé et on lui a fait de la thalasso. Il a découvert les bienfaits, il a cherché désespérément qui pourrait lancer un centre de thalasso et finalement, il est allé à Quiberon où il a créé la thalasso à laquelle de personne ne croyait à l'époque.
C'est vrai qu'il a été précurseur dans ça. Après, ben maintenant, on peut voir tous ceux qui ont la thalasso, la balnéo, tout ce qui est les bienfaits de la mer ou de l'eau pour les athlètes et pour les personnes comme vous et moi. Ça fait du bien, quoi.
Vous en avez bénéficié quelquefois entre deux courses, Bernardino, de la Thalasso?
J'ai fait plus l'hiver que pendant la course parce que par rapport au nombre de jours de course que je faisais, je n'avais pas trop l'occasion de pouvoir le faire.
Oui, car vous n'arrêtez pas depuis votre premier contrat professionnel que vous devez à un champion qui est Jean Stablinski, qui vous a engagé la première fois. C'est le premier contrat financier vrai de professionnel.
Oui, parce qu'il faisait partie d'un groupe. Mon sponsor, quand j'étais amateur, était un distributeur d'électroménager. Et Jacques Sablinski avait aussi une entreprise de distribution d'électroménager. Et ils étaient dans le même groupement. Donc, c'est par le biais de M. Polterth qui m'a fait engager avec Jacques en disant que tu peux y aller, celui-là, ce sera un bon, t'inquiète pas. Et ça s'est vérifié après.
Oui. Et puis vos premières courses, vous les avez gagnées en France, mais en Belgique. Je crois qu'il y a eu Gand-Wevelgem et Liège-Bastogne-Liège qui sont vos premières grandes victoires, Bernardino.
Oui, je suis arrivé à Gand-Wevelgem. Bon, bah, j'étais normalement fait pour être l'équipier de Willy Terling. Et Willy m'a dit à un moment donné, je ne suis pas bien, je ne me sens pas à la hauteur, fais ta course. Et donc, j'ai fait ma course, je me suis retrouvé dans un groupe à peu près d'une trentaine de coureurs. On avait un peu d'avance. Et à un moment donné, le peloton s'est mis à revenir. Et moi, je suis sorti de ce petit groupe d'échappés. Je suis parti tout seul. Et puis, j'étais jusqu'à l'arrivée. Et en Belgique, on avait dit, au royaume des aveugles, les bornes sont rois, parce qu'il manquait Merckx, il manquait un certain nombre de grands coureurs que j'ai rencontrés 4 jours plus tard, puisque c'était 4 jours ou 4 ou 5 jours plus tard, à Liège-Bastogne-Liège. Et là, l'aveugle, il voyait bien clair.
Voilà, vous avez gagné. Mais Merckx, il y a eu aussi un moment, une course qui a failli se terminer tragiquement, car vous avez failli finir dans un ravin pendant le Dauphiné libéré, Bernardino. Ça aurait pu être tragique comme Roger Rivière l'a été.
Mais ça, c'est une faute de trajectoire. J'étais un novice dans les descentes de col, parce qu'en Bretagne, il n'y a pas de col. Et donc, j'ai fait une faute de trajectoire qui m'a valu d'aller au fond du ravin. Mais je m'en suis sorti pas trop mal. Je n'ai pas gardé de séquelles. Bon, à part sur la course, bien sûr, j'ai eu 2 jours très difficiles. Et un certain Eddy Merckx m'a donné un coup de main gagné.
Voilà. Et je crois que vous êtes resté accroché à un arbuste, ce qui vous a empêché de tomber.
Ouais, autrement, je descendais jusqu'au Grenoble, donc ça fait un peu loin, quoi. Plus vite que j'aurais pensé. Et donc, Eddy Merckx m'a donné ce coup de main. Il m'a dit, accroche-toi, môme, accroche-toi. Et quand vous avez un champion comme Eddy Merckx qui vous dit, accroche-toi, môme, vous vous accrochez. C'était mon idole, donc je ne pouvais pas lui dire, non, je lâche tout. Non, non, je me suis battu avec un de mes équipiers qui s'appelle Jean Chassant et qui m'ont ramené jusqu'à l'arrivée. Je gagne, je crois, pour le général, pour 2 ou 3 secondes ou 8 secondes, mais pour rien, quoi.
Oui, vous gagnez. Et Eddy Merckx, un jour, vous a adoubé comme son successeur.
C'était fantastique que le champion qui est Eddy Merckx dise ça de vous. Donc ça m'a fait énormément plaisir et après j'ai voulu être à la hauteur de ce qu'il avait dit.
Voilà, ça s'est fait dans une chambre d'hôtel, je crois. Il a dit à un journaliste, lui, après moi, ce sera lui.
Oui, parce qu'on a couru pendant 3 ans, en 75, 76 et une partie de 77. l'un contre l'autre. Et il a déjà vu sans doute mes performances, et surtout en 77 quand j'ai gagné Liège-Bastogne-Liège.
Vous êtes resté en bon terme avec lui ?
Toujours, avec... toujours. C'est... On ne peut pas dire qu'on ne s'entend pas. Et à chaque fois qu'on se voit, c'est avec le plus grand des plaisirs. Et on prend des nouvelles l'un de l'autre assez souvent.
Eh bien, nous, on va vous retrouver aussi avec plaisir dans quelques instants avec une autre date, le 8 septembre 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Hinault.
Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Bernard Hinault. Donc, il y a ce livre qui est sorti avec Jean-Paul Brouchon, Le mythe illustré chez Marie Édition. Et vous évoquez certains passages de votre vie, notamment cette date, le 8 septembre 1985, une soirée de télévision avec ce générique. Le grand échiquier. Alors, le grand échiquier, en général, c'est réservé à des écrivains, à des cinéastes. Et là, ce soir-là, ben, l'émission qui dure 2h23, vous en êtes la tête d'affiche, Bernard Hinault.
Oui, Jacques Chancel, qui est un amoureux du vélo, m'avait invité et convié à venir à cette émission. Oui, c'était avec grand plaisir.
Mais 2 heures de télévision comme ça, c'est pas évident.
C'est pas évident, mais en 85, c'était encore le champion qui était vraiment au sommet de sa gloire, de ses performances, et je pense qu'il avait envie de partager des moments avec moi.
Voilà. Mais pour vous, qui n'êtes pas vraiment un parleur, c'est-à-dire les journalistes, après le Tour de France, pendant le Tour de France, vous avez essayé de les voir les moins possible, c'est quand même une performance d'être 2 heures à la télévision, Bernard Hinault.
Oui, c'était une autre manière de me présenter, une autre manière de me forcer aussi, parce que c'est pas évident, mais je pense que ça n'a pas été trop mal.
Mais Jacques Chancel aime tellement d'ailleurs les cyclistes que pour le 100e tour, il a fait une déclaration en rendant hommage aux smicards du vélo, ceux qui sont les derniers, et il a dit « Aucun coureur ne finit réellement dernier, il termine dernier des meilleurs du monde pendant le Tour de France ».
Et il avait raison, parce que quand on est au Tour de France, on récupère en général les 180 ou 200 meilleurs coureurs qui existent sur la planète. Et donc, automatiquement, même celui qui est le dernier, qui gagne presque rien, ça fait quand même partie du sommet de tout ça, quoi.
On ne se rend pas compte de ça. On a l'impression que ce dernier, c'est un mauvais. Pas du tout. Arriver dans le Tour de France, c'est déjà une performance.
Être au départ, c'est vrai une performance. Et puis après, il faut réaliser. Tout le monde n'est pas bon en montagne. Tout le monde n'est pas bon contre la montre. Et très peu ont la possibilité de tout faire. Et certains coureurs qui sont très loin au général sont aussi des équipiers qui ont parfois fait le travail pour leur leader. Et dans ces cas-là, ils se retrouvent avec 40 ou 50 ou 1 heure ou 2 heures à la sortie du tour de retard. Mais ils ont fait leur travail avant.
Et les équipiers, et vous en parlez dans ce livre, Bernard Hinault, c'est très important pour vous. Ça a toujours été très important. Vous leur rendez hommage dans ce livre.
Mais c'est tout à fait logique. Moi j'ai toujours dit, je suis le dernier des équipiers. C'est celui qui doit aller chercher la victoire. Eux font leur part de travail avec plaisir, je pense, en sachant que moi, je vais réaliser la victoire. Et quand on fait quand on a la victoire, quand on est interviewé, il faut toujours les associer en disant « j'ai fini le travail des autres et c'est mon rôle ». Et j'ai eu des équipiers qui étaient tous des équipiers en or.
Souvent que vous avez choisi, et ces équipiers, ils sont là pour justement vous ouvrir la route, vous aider dans les moments difficiles, vous protéger.
Quand il fait très chaud, c'est eux qui vont vous chercher à boire. C'est eux qui vous amènent aussi des renseignements sur vos adversaires quand ils vont faire un petit tour derrière, c'est-à-dire au fond du peloton, ou chercher de la boisson. Quand ils remontent, ils vous regardent et ils vous disent, il y en a un qui est un peu en difficulté, là, c'est peut-être le moment de lui chatouiller un peu les oreilles. Et puis, ça fait la course.
Voilà. Et ces équipiers, vous êtes tellement liés que vous avez une particularité. En général, pendant le Tour de France, vous avez votre chambre. Et là, vous alliez dans la chambre de chacun des équipiers jour après jour, soir après soir, Bernard Hinault.
Et c'est tout à fait logique. On ne peut pas privilégier un équipier par rapport aux autres. On ne peut pas dire c'est toujours lui qui va venir dormir avec moi. Non, il faut partager tout ce que l'on a. Et surtout, c'est un moyen de pouvoir bien les connaître. Et quand vous en avez un dans la journée, vous voyez, parce que vous les connaissez à la fin, qu'il n'est pas dans ses baskets, qui n'est pas très à l'aise, qui n'est pas comme il faut, comme d'habitude, Ben, vous l'invitez le soir à passer la soirée avec vous, et puis vous lui demandez ben, tout ce qui se passe. Et puis tout ce qui se passe à l'intérieur, ça reste entre lui et vous. Les autres n'ont pas besoin de savoir ce qui s'est passé.
J'en reviens à ce grand échiquier. Dans cette émission où il y avait des invités que vous aviez choisis, il y avait Julien Clerc, avec qui vous partagiez l'amour des chevaux, je crois, Bernard Hinault.
Oui, c'est un animal qui est fantastique, c'est un athlète. Quand on regarde les compétitions qui sont faites avec les chevaux, ce sont des athlètes. Et aujourd'hui, quand vous avez l'occasion de discuter avec un entraîneur de chevaux, ils ont les mêmes techniques d'entraînement que pour les coureurs cyclistes. Et ça, c'est incroyable qu'on puisse… Sauf que le cheval ne vous dit pas s'il a mal ou pas mal, quoi.
Voilà. Et il y avait aussi Marcel Rosier qui parlait des difficultés de comprendre justement le langage du cheval.
Oui, mais tout simplement parce qu'il n'a pas la parole. Et ça, c'est difficile. Donc, je dirais que c'est plus facile à un entraîneur de courant cycliste de préparer un athlète, parce qu'il peut discuter avec, il peut avoir des sensations, sentir ce qui se passe, qu'avec un cheval qui ne va rien pouvoir vous dire. Et ça, c'est moi, je dis qu'un entraîneur des chevaux, faut que ce soit quelqu'un de très, très fort.
Et le cheval…
Peut-être que ça pourrait être un très bon entraîneur pour un coureur cycliste. Hein.
Oui, mais le cheval, vous en avez fait, c'est une de vos passions ?
Non, je n'ai pas pratiqué. J'ai eu des chevaux à la maison quand j'ai arrêté de courir, et puis des poneys quand mes enfants étaient petits. Mais pratiquer la compétition, non, je n'ai jamais fait.
Et vous avez d'autres passions. Alors, il y a une chose étonnante aussi, c'est qu'à une époque où on ne parle pas encore d'écologie, vous parlez avec Jean Dorce de la disparition des espèces dans le monde dans cette émission. C'est déjà un sujet qui vous préoccupait, Bernard Hinault.
Ben oui, parce que c'est notre monde, il ne faut pas l'oublier. Si on ne s'occupe pas un petit peu de protéger ce que l'on a ou de réguler, parce qu'il faut savoir aussi réguler quand il y en a trop dans certaines espèces, c'est un savoir. Et on peut être écologiste en étant un sage, pas être un autonomiste.
Oui, mais en même temps, on est en 85, on ne parle pas encore d'écologie comme on en parle aujourd'hui. Vous étiez un précurseur.
Bon, je ne sais pas si j'étais un précurseur, mais j'étais conscient que comme moi qui roulais dans la campagne en permanence, et qui était donc en contact avec cette vie, on pouvait voir déjà des animaux en moins.
Et vous évoquez aussi la Bretagne, bien sûr, puisque vous êtes originaire de Bretagne, Bernard Hinault, et vous évoquez la langue bretonne que vous n'avez jamais parlé.
Malheureusement, autrement, j'aurais fait tous mes interviews en breton. On se serait amusé.
Oui, et pourquoi c'est...
Ah, parce qu'il faut sauver notre culture, que ce soit la langue bretonne, l'occitan, le Pays basque. Je crois que ça fait partie de notre culture, il faut le protéger à tout prix, ça.
Et on a essayé d'éliminer, je crois qu'en 1881, les lois de Jules Ferry ont voulu interdire la langue bretonne, et les prêtres bretons ont réagi en publiant un millier d'ouvrages, ce qui a ensuite sauvé la langue bretonne et qui est aujourd'hui enseignée dans certaines écoles.
Encore aujourd'hui, maintenant il y a des écoles, on appelle Diwan, donc, où on parle le breton, et je trouve ça génial, parce que c'est un apprentissage supplémentaire pour une langue, et j'aurais voulu que mes parents ou mes grands-parents parlent le breton, parce que c'est une facilité après pour apprendre d'autres langues. Et je crois que c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Et puis, c'est la culture, c'est quand on fait la fête et qu'on peut parler en breton. J'ai eu l'occasion d'aller dans le Finistère, donc là, c'est loin de chez moi, où ils parlent le breton. Mais c'est une langue qui est fabuleuse, quoi.
Alors, dans cette émission, il y a aussi Bernard Tapie, qui a été une rencontre très importante pour vous, Bernard Hinault.
C'est vrai, j'ai eu une période où avec Cyril, ça ne pouvait plus passer, donc j'ai décidé de quitter Cyril, et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Bernard Tapie, qui avait un projet, moi aussi, j'avais un projet d'une équipe, et lui avait un projet industriel, et il m'a engagé comme technicien et conseiller pour faire une pédale automatique, parce qu'il avait une société qui s'appelle Loop, qui travaillait qu'avec des fixations de ski, et le complément du ski, c'était le vélo. Donc, il m'a dit, si tu me fais la pédale automatique, je te signe le contrat. Je dis, OK, on va la faire. J'étais le premier à mettre des pédales automatiques.
Oui, et non seulement ça, mais vous êtes le premier à avoir, en tant que champion, monté votre propre équipe avec des moyens d'autres, Bernard Hinault.
Bien sûr. Après, bon, il y en a eu d'autres, mais à l'époque, c'était les managers ou les directeurs sportifs qui s'occupaient de tout ça. Et là, donc, j'avais envie de rentrer dans l'entreprise avec Cyril, et Cyril ne l'avait pas tout à fait compris, il ne l'avait pas trop apprécié. Donc, je dis, je vais voir ailleurs, quoi. Et ça s'est très bien passé.
Oui, mais c'était une innovation. On vous a pris pour un fou, parce qu'un coureur cycliste, en général, ne fait pas ça, Bernard Hinault.
Ben oui, mais il faut toujours aller de l'avant, il ne faut jamais se dire si j'essaye pas, je ne sais pas. Donc autant essayer, puis bon, si on se plante, on se plante, hein, ça fait partie de la vie aussi, ça.
Voilà, et ça a marché. Et la présentation était assez étonnante. La présentation de l'équipe qui s'appelait la Vie Claire s'est déroulée au Crazy Horse Saloon, qui est pas un
Ben
lieu.
oui, il y avait les belles filles.
Voilà.
Il n'y a pas de raison. Je vois que il faut pas rester avec des stéréotypes où on fait la présentation dans un endroit huppé. Non, moi je trouvais ça très 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 sympa. Et on a fait la fête plusieurs fois. Quand j'ai gagné le tour en 85, j'étais dans les bras des plus belles sur les Champs-Élysées. C'était pas mal non plus.
Voilà. Et le Crazy Horse, effectivement, il faut savoir qu'Alain Bernardin l'a créé en 1951. Et parmi ceux qui ont débuté inconnus au Crazy Horse, il y a eu Raymond DeVos et il y a eu Charles Aznavour quand ils n'étaient pas connus, qui ont fait leur
Mais
premier
moi,
cachet avant.
j'avais déjà une petite partie de palmarès quand même.
Exactement. Alors, il y a aussi, à propos de fêtes, des musiciens que vous adorez. Écoutez. Je crois que les Rolling Stones, ce sont vos idoles, Bernard Hinault.
Ça fait partie de ma génération, hein. Avec Johnny Hallyday, avec Eddie Mitchell, il y a tellement de personnages. Et à notre époque, quand on faisait beaucoup de route, ben on n'avait pas le choix. On écoutait beaucoup la radio tout au long d'un parcours parce que vous partiez de Bretagne, vous alliez à Nice en voiture. Donc ça fait 1 000 km, vous avez le temps d'en écouter de la musique.
Et les Rolling Stones, ça vous donnait une énergie.
Oui, Rolling Stone, c'est sûr que là, ça donne, ça booste, ça donne envie d'aller plus vite, plus fort.
Et le nom du groupe, on ne le sait pas assez, vient d'une chanson de Moody Waters qui s'appelle Rolling Stone. Et c'est Brian, membre des Rolling Stones, qui l'a choisi et qui a été le premier à donner ce nom à ce groupe mythique. Alors, justement, le travail que ça représente, votre énergie, vous l'avez appris petit à petit. C'est-à-dire que, y a eu vraiment une époque, vous avez dit, il faut montrer les dents, Bernard Hinault.
Bien sûr, il faut toujours être le premier quand vous avez la possibilité, il faut le faire, faut pas se poser de questions. Et il faut montrer les dents, c'est-à-dire, eh ben, il faut attaquer, faut pas avoir peur de dire aux gens ce que l'on pense, chose que j'ai fait assez souvent.
Voilà, et avec du caractère qu'on a découvert au fil de vos victoires.
Oui, certainement.
Mais en même temps, c'est une façon de se faire respecter.
Oui, ben oui. Quand je suis arrivé dans le peloton professionnel, on m'a dit, il y a Merckx. Je dis, mais Merckx, il est comme moi, il a deux bras, deux jambes, une tête, il s'en sert. Ben moi aussi. Je
Voilà.
vois pas pourquoi j'irais lui faire le passage parce qu'il va arriver. Non. Je vais faire la course comme moi je l'entends aussi.
Et puis quand vous décidez quelque chose, c'est pour toujours. Vous avez gagné Paris-Roubaix un jour et vous avez dit, je ne reviendrai jamais.
Voilà. La hantise de Paris-Roubaix, pour moi, c'était de la mauvaise chute. Je savais que j'avais les capacités pour gagner le Tour de France à 99% quand j'étais au départ. Donc, je n'avais pas envie de prendre la mauvaise chute au moment de Paris-Roubaix, qui au mois d'avril, on fait une fracture de la clavicule ou n'importe où, ben, on n'est pas prêt pour le départ du Tour et j'avais plus envie de gagner le Tour que Paris-Roubaix. Et en 80, je gagne le championnat du monde. Donc, le printemps d'après, en 81, je travaille beaucoup plus que d'habitude parce que je dois honorer ce maillot de champion du monde et je me retrouve dès le début de la saison compétitif, alors que d'habitude, j'y étais pas trop. Et puis, ben, j'arrive au départ de Paris-Roubaix, je fais Paris-Roubaix, j'ai beaucoup d'incidents, mais à chaque fois, j'ai l'impression que les autres n'avancent pas. Et dans le sprint, je fais le sprint que j'avais fait l'année d'avant, pour faire quatrième. Et en regardant le vent, sachant que ben, quand il y a du vent, il faut s'en servir. Et c'est ce que j'ai fait pour battre les meilleurs du moment, et les spécialistes surtout.
Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous gagnez aussi à être connu à travers ce livre dont on va parler dans quelques instants, à travers une autre date, le 26 novembre 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Hinault.
Les clés d'une vie, 13h-14h. Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Bernard Hinault. Donc, le 26 novembre 2020, il y a quelques jours, est paru Hinault, le mythe illustré, un livre que vous signez avec Jean-Paul Brouchon, qui a hélas disparu, chez Marée Éditions. Alors, c'est un livre illustré qui évoque à chaque fois, qui évoque votre carrière à travers des articles, des commentaires personnels et des photos. Pourquoi ce livre aujourd'hui, Bernard Hinault?
C'est une réédition qu'on a fait, qui a lieu il y a 2005, je crois, même peut-être avant. Et on a remis des petits articles, on l'a remis au goût du jour. Et parce qu'il est vivant, parce qu'il y a plein de choses dedans, et ça retrace aussi une partie de mon histoire.
Oui, avec un palmarès inégalé, et on s'en rend compte en lisant ce livre, parce que votre parcours, vous-même, peut-être, vous ne l'avez peut-être pas mesuré vous-même tout au long de votre carrière, parce que tout allait très vite.
Mais on ne mesure pas, on ne s'en rend même pas compte, parce que nous, pour l'athlète, c'est logique. Ça fait partie de sa vie, de sa compétition. Il ne s'en rend même pas compte qu'à la sortie, quand il a fini sa carrière, on dit « moi, j'ai gagné tout ça ». Je ne me rappelle même pas trop. Parce qu'on vit au moment même, quoi. Quand on gagne une course, on est super content, on est très, très heureux de le partager avec tous ses équipiers. Et puis déjà, le soir même, on pense à la prochaine qu'on va faire et à la prochaine qu'on va gagner.
Exactement. Alors, le mythe illustré, c'est vrai que vous êtes devenu un mythe aujourd'hui, et pas seulement parce que personne n'a gagné le Tour de France depuis votre dernière victoire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au début, vous n'étiez pas aimé. Et c'est un jour où vous avez perdu qu'on a commencé à vous aimer, Bernard Hinault.
Ah, parce qu'on n'aime pas beaucoup les gens qui gagnent. Les deux premières années, 78, c'est super, il a gagné, c'était très très, très bien. 79, je gagne avec beaucoup d'étapes. On dit « oui, mais c'est pas normal, il a dû tricher, c'est pas logique ». En 80, j'ai mon problème de genou, on me dit « ah, pauvre malheureux ». En 81, je reviens, donc les gens sont super contents. 82 aussi. En 83, j'ai un nouveau problème, assez bien fait pour sa gueule. S'il n'avait pas pris autant de produits, il faut dire le mot carrément, parce que je l'ai reçu à la maison, faut pas croire. Si tu n'avais pas pris autant de produits, tu n'aurais pas eu de soucis. Et puis, vous revenez en 84, je suis dominé par Laurent Fignon parce qu'il est meilleur que moi. Et donc, on me dit pauvre malheureux, 85, tout le monde est content de revenir. Et puis, après, c'était la fin.
Voilà. Mais ça ne vous surprend pas, tout ça? C'est pas dur pour le moral?
Non, il faut au-delà de ça. Quand on vous dit c'est bien fait pour ta gueule, tu as envie vraiment de leur montrer que c'est tout le contraire. Et puis, de te battre de manière à revenir le numéro un. Et puis tu t'en fous un peu de ce qu'on peut dire à côté, à partir du moment où tu as ta conscience personnelle.
Alors, il y a quelqu'un qui était dans votre cas, qui est une idole d'une génération. Il y avait les pro Anctil et les pro Poulidor, Jacques Anctil, que vous avez connu et qui vous a donné de bons conseils, qui a été presque un maître pour vous, un regard, Bernard Hinault.
C'était quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de temps parce qu'il était dans le sélectionneur de l'équipe de France. Et à chaque fois, j'ai été championnat du monde. Donc, j'ai été quand même quelques coups. Il était toujours présent et il me disait, tu restes dans ton lit, je viens, je discute avec toi. Il était assis au pied du lit et on partageait des moments fantastiques aussi bien de compétition, la manière dont il avait couru, que tout ce qu'il avait vécu après. Et ça, c'était des très, très grands moments.
Et vous avez vécu un moment tragique. Je crois que vous étiez là quand il a appris qu'il avait un cancer.
Le lendemain. Parce que je suis le parrain de Christopher, donc son fils, et on a fait le baptême le 24 mai 87. Et la veille, il me dit, j'ai été faire des analyses, on m'a dit que normalement, ça devrait aller. On m'a dit aussi que quand on avait un cancer, au bout de 18 mois, on était mort. Il dit, ça fait 3 ans que j'ai mal, donc ça ne peut pas être ça. Et le lendemain, quand j'étais prêt à repartir pour venir chez moi, le courrier passe, on lui donne cette lettre, il l'ouvre bien sûr, il me dit « j'ai le cancer, qu'est-ce que je fais ?» Je lutte, je me mets une balle dans la tête. Il faut quand même le faire quand même. Mais je dis « mais Jacques, t'es con ou quoi ? Ça se soigne, fais attention, fais tout ce qu'il faut. » Et malheureusement, il s'est pas soigné, quoi. Il a attendu trop longtemps et quand ça a été la fin, c'était terminé, quoi. Il ne pouvait plus être soigné, quoi.
Ouais.
Et j'étais le voir le 11 novembre, 5 jours avant qu'il ne meure, quoi. Et là, il me dit, comment veux-tu que je m'en sorte? J'ai 3 cancers. Voilà la manière dont il voyait les choses, quoi.
Et il a dit, je crois aussi, il y avait Poulidor avec beaucoup d'humour, tu seras encore le second.
C'est vrai. C'est vrai que Raymond a dû passer juste après moi ou avant moi. Et il lui a dit ces paroles-là qui sont quand même dures, quoi.
Alors, dans ce livre, Bernard Hinault, il y a aussi un hommage de Jacques Boudet, qui était le directeur du Tour de France, qui dit que vous n'avez jamais donné l'impression de flancher, même dans les moments où vous étiez fatigué.
Mais il faut cacher quand on n'est pas bien. C'est peut-être ce qui a été aussi ma force, de pouvoir cacher les moments difficiles ou dans une carrière. En fait, à 100% tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des moments où c'est un peu plus dur, ben, il faut le cacher pour mieux rebondir après. Et on peut avoir un passage, pardon, on peut avoir un passage à vide dans la journée et puis finir à tombeau ouvert.
Jacques Godet, qui a été directeur du Tour de France, lui, il est lié aussi indirectement à une chanson très célèbre.
Et je fais oh, et je fais ah, c'est si bon de partir n'importe où.
Je ne sais pas si vous le savez, mais les sœurs Étienne ont créé C'est si bon bien avant Yves Montand, qui est devenu un succès international. Elles l'ont chanté, Louise et Odette Étienne, sur le Tour de France. Et c'est comme ça que Odette Étienne a rencontré Jacques Godet et elle est devenue sa femme.
Ah, ça, je ne savais pas. Je ne savais même pas qu'elle était chanteuse au départ.
Et voilà, c'était
une belle histoire encore.
Une belle histoire. Alors, des belles histoires, vous en avez connues avec des moments difficiles, parce que vous dites dans ce livre que vous avez fait 80 000 km par an en voiture et 40 000 en vélo. C'est beau.
Oui. Mais oui, mais on n'avait pas le choix. Entre les compétitions et l'entraînement, ça fait 40, 42 000 km par an. Mais le plus que j'ai couru, c'est 160 jours dans une année. Donc, c'est pas mal. Mais bon, c'est encore rien par rapport à Eddy Merckx qui en a fait 196.
Oui, mais c'est quand même pas mal. Mais surtout, vous avez roulé à une époque où les autoroutes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. C'était beaucoup plus difficile, Bernard Hinault.
Bien sûr, c'était beaucoup plus difficile, mais souvent, on partageait la voiture à deux, trois coureurs. Donc, on se relayait parce que souvent, le temps entre chaque course était limité. On se relayait, on dormait dans la voiture à moitié. C'était une vie de patachon un peu. Hein. Mais bon, oui. c'était pas si mal que ça, finalement.
Non, et puis c'était une époque aussi, même pour les coureurs, où c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'oreillettes.
Il n'y avait pas d'oreillettes, il y avait plein de choses. Et quand vous faisiez les grandes courses, bon, c'était rémunéré, mais pas énormément. Vous aviez votre salaire, mais ce n'était pas aussi ceux d'aujourd'hui. Et un des moyens de pouvoir gagner sa vie, c'était ce qu'on appelait les critériums, des courses dans des villages ou dans des villes. Et là, vous y alliez tous les jours, parce que c'était votre gagne-pain. C'était la moitié de votre salaire, il ne faut pas l'oublier quand même.
Oui, mais il faut s'entraîner en permanence, il faut tenir le choc, ce n'est pas évident.
Je pense que quand on a la bonne constitution, ça se passe bien. Et oui, puis, oui. Une règle de vie quand même saine. Je crois que ça, c'est aussi important. On n'allait pas dans les boîtes de nuit après avoir fait le critérium. On reprenait souvent la voiture pour aller dans l'autre critérium qui était souvent à 200, 300, 400, même 500 kilomètres de là. Donc, c'était une vie de vagabond vraiment, hein.
Oui, et une vie où on vous appelait. Alors, dans ce livre, vous racontez vraiment l'origine du blaireau, puisque c'est votre surnom. Et au départ, vous étiez le petit blaireau, Bernard Hinault.
Oui, j'étais dans. C'est deux coureurs de chez moi qui s'appellent Talbourdet et Le Guillou, qui ont dit devant Pierre Chani, justement, qui a écrit aussi dans des paragraphes du livre, qui ont dit c'est un blaireau. Mais le nom du blaireau était dans le peloton où tout le monde s'interpellait en disant qu'est-ce que tu fais, blaireau, ce week-end ? Ou qu'est-ce que t'as fait blaireau ce week-end, mais c'était pas spécialement sur moi. Et le fait que ces deux coureurs disent devant Pierre Chani, c'est un blaireau, Pierre Chani l'a écrit et c'est parti comme ça.
Et Antoine
Blondin. Mais ça me rassemble bien, hein. C'est un animal qui est agressif, donc un peu comme moi. Quoi.
Oui, vous êtes beaucoup moins agressif qu'avant, Bernard Hinault.
On se calme en vieillissant.
Il y a aussi quelqu'un qui vous a appelé Auguste, c'est Antoine Blondin, le chroniqueur du Tour de France.
Ça, je ne savais pas. Je ne me rappelle plus qu'il avait écrit ça, mais je crois qu'il a fait des textes magnifiques. Je crois que dans le livre, il y a une photo où on est tous les deux dans le train qui remonte vers Paris. Ça doit être en 79 ou 79, je pense. Et on a partagé des moments. C'était quelqu'un de fantastique.
Qui buvait un petit peu trop, peut-être.
Oui, c'était sa vie. Hein. Il y en a quelques-uns sur le Tour de France qui vidaient bien les caves, quoi, disons. Mais qui faisait aussi des super articles derrière, qui étaient géniaux. Et ça, c'est incroyable qu'on puisse mélanger les deux, quoi.
Et puis Antoine Blondin, c'est aussi quelqu'un qui a fait une fête incroyable, c'est le marathon des leveurs de coudes à Saint-Germain. C'était 42 bistrots dans la journée avec un verre dans chaque bistrot. Antoine Blondin participait. Et je vous dis pas les participants à la fin de la journée, ce que ça donnait.
Ah ben j'en ai connu quelques-uns. Quand j'étais ou coureur cycliste ou dans l'organisation de chez ASO, qui n'étaient pas des mauvais pour ça. Et puis ils m'ont invité quelques coups, mais je dis non, je ne joue pas ce jeu-là. C'est un peu trop dangereux pour moi.
Oui, et d'ailleurs, je crois que la seule fois où vous avez failli voulu boire un verre de vin pendant un dîner, Cyril Guimard vous en a empêché pendant le tour.
Non, ce n'était pas pendant un tour, c'était à Liège-Bastogne-Liège, mais c'était un moment où on s'accrochait tous les deux. Donc, c'était prétexte pour accepter. Mais j'ai toujours bu du vin, du bon vin, et je trouvais que c'était le meilleur des somnifères. Vous en buviez deux verres, et puis ça vous tombait dans les chaussettes, et oup, vous étiez sous la table, et après, vous pouvez aller dormir.
Et puis, alors, le vélo, ben, pendant 20 ans, vous l'avez un peu oublié, et vous êtes remonté sur votre vélo récemment pour le plaisir. Et vous refaites du vélo pour le plaisir, Bernardino.
Oui. J'ai toujours dit, tant que j'avais la ferme, je n'avais pas trop l'occasion de pouvoir pratiquer parce que entre ASO et puis la ferme, ça m'occupait bien. Et puis en 86, quand on a arrêté l'exploitation, en 2006, pardon, j'ai dit, mais il faut que je m'entretienne physiquement, il me faut quelque chose pour me dépenser. J'ai dit, qu'est-ce que tu sais encore faire? Le vélo. Donc j'ai recommencé à faire du vélo. J'ai bien souffert au départ parce que j'avais plus les muscles qui étaient préparés, le corps n'était plus préparé non plus à ce genre d'exercice, et puis au bout de 4-5 mois, ça revient, et aujourd'hui, ça va pas trop mal encore.
Ben écoutez, continuez comme ça, et restez le champion que vous avez été, que vous restez dans nos cœurs, et on le découvre dans ce livre, Le mythe illustré Inno, avec Jean-Paul Brouchon chez Mario Édition. C'est vraiment un beau cadeau de Noël, parce qu'on retrouve des performances d'un champion, d'un vrai champion français, comme on n'en a plus beaucoup aujourd'hui. Merci Bernard
Hinault.
Merci d'avoir participé à Clé d'une vie et puis à bientôt pour d'autres aventures, j'en suis sûr, car vous n'en resterez pas là.
Voilà. Bon, je crois qu'il y en a encore plein à faire.
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Et restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. À bientôt.